Radio Okapi.
Présenté par Grace Amzat, voici le sommaire. Insécurité à Bounia, en Ituri. Deux fusillades en une semaine font 5 morts et 16 blessés. Le dernier cas en date a été enregistré hier soir où des hommes armés non identifiés ont ouvert le feu sur des clients d'un bar dans le quartier Lumumba. Face à cette situation, la police rassure quant au dispositif pour sécuriser la ville et appelle la population à la vigilance. Qui est finalement le maire de la ville de Lubumbashi? Une question que d'aucuns se posent dans la capitale du cuivre. Confusion totale. Le maire intérimaire Patrick Kafwimbi et la maire adjointe Joyce Tunda se disputent ce fauteuil. Mais qui doit trancher? Jean Gandou nous en dira plus dans ce journal. L'Association nationale des parents d'élèves du Congo Anapeco salue la publication rapide des résultats de l'examen d'État édition 2025 obtenu grâce au recours à l'intelligence artificielle. Steve Diatezoa, son président, est l'invité de ce journal. À toutes et à tous, bonjour. Ce journal part de l'Ituri, où la police nationale congolaise renforce les dispositifs de sécurité dans la ville de Bounia après la fusillade de mardi soir qui a fait un mort et 5 blessés. Le commandant urbain assure que la ville est désormais quadrillée pour rassurer la population. De son côté, les habitants doivent faire preuve de vigilance accrue et renforcer leur collaboration avec les services de sécurité afin de prévenir un nouveau drame dans la ville de Bounia. Isaac Raymond.
La psychose gagne du terrain à Bounia. Des fusillades en une semaine ont fait 5 morts et 16 blessés. Mardi soir, des hommes armés non identifiés ont ouvert le feu sur des clients d'un bar dans le quartier Lumumba. Face à cette situation, la police dit avoir pris des mesures strictes. Les patrouilles sont renforcées et les forces de l'ordre ont quadrillé les zones jugées sensibles. Le colonel Abeli Mwangu, commandant urbain de la police, appelle aussi à la vigilance citoyenne.
Les policiers ont quadrillé tout le secteur du quartier Lumumba. Les enquêtes sont en cours et nous courons derrière le malfrat. Voilà pourquoi nous recommandons à la population d'être vigilante en cette période.
Mais ces assurances ne convainquent pas tout le monde. Certains acteurs politiques et de l'hostie civile estiment que les autorités réagissent tardivement. Le député provincial Eli de Bounia, Pascal Doudanga Cavarios, critique une approche trop passive.
La meilleure sécurité est celle qui est anticipative. Parce que là, le malfrat est faible. Et si une fois on connaît dans telle maison, d'une façon anticipative, qu'il y a une arme, et que les services descendent dans cette maison, c'est facile de récupérer cette arme-là.
La société civile demande également à la justice d'ouvrir rapidement une enquête pour identifier les auteurs de ces fusillades et mettre fin à ce climat d'insécurité qui s'installe dans la ville. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
Pendant ce temps, au Nord Kivu, une panique s'est emparée des habitants du quartier Mabanga ce mercredi dans la matinée. Pour cause, une opération de bouclage menée par surprise autour des 6 heures du matin par des éléments du mouvement AFC M23. Près de 60 personnes, généralement des jeunes hommes, ont été prises de force dans les rues et des avenues et même dans leurs maisons. Conduits au stade de l'unité, quelques-uns de ces jeunes ont été relâchés après identification. Cette opération n'est pas la première, s'inquiètent plusieurs acteurs locaux. Les détails avec vous, Blaise Shindani Kambala.
Rassemblés en face du stade de l'unité ce matin, quelques dizaines de membres des familles des personnes interpellées dans cette opération de bouclage avaient une expression de tristesse sur leur visage. S'ils observaient avec impuissance la scène, ces membres des familles, pour la plupart des mères ou épouses des personnes interpellées, attendaient que les leurs soient relâchés ou qu'elles soient fixées sur le sort qui leur aurait été réservé. Jusqu'à 11h locales, seule une vingtaine de ces personnes interpellées avaient été relâchées par les militaires du mouvement AFC M23. Ceux-ci auraient été instruits de retourner dans le quartier Mabanga pour assister à un meeting de sensibilisation appelé par l'autorité locale de base. Pour certaines sources proches du mouvement AFC M23, cette opération de bouclage est la réponse à plusieurs alertes d'insécurité impliquant des présumés Wazalendo. La semaine dernière, un collaborateur du dit mouvement rebelle a été tué par des bandits armés un peu plus au nord du quartier Mabanga. Rappelons que ces opérations de bouclage ont déjà été menées plusieurs fois dans la ville de Goma en territoire de Nirangongo ainsi que dans les cités de Sake et de Rubaya en territoire de Masisi. Certains autres acteurs voient plutôt dans ces opérations une stratégie d'enrôlement forcé des jeunes au sein des rangs de l'AFC M23.
Merci à vous Blaise Sindani. Nord Kivu toujours, la société civile du territoire de Beni appelle à une coordination efficace des actions entre les FARDC, l'armée ougandaise et les casquets bleus de la MONUSCO afin de faire face à la menace persistante des ADF dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri.
Cet appel intervient au regard de la recrudescence ces dernières semaines des attaques de ces groupes armés mettant fin à quelques mois d'accalmie. Pour Richard Kirimba, vice-président de cette structure, une bonne coordination permettra d'obtenir les résultats escomptés et de favoriser l'instauration d'une paix durable. Il s'exprime au micro de Martial Papi Mukeba.
En plus de toutes les recommandations que nous avons déjà données en termes de maintenir la pression sur l'ennemi, nous sommes en train d'insister sur la bonne coordination des opérations militaires pour tous les éléments impliqués dans la traque contre les ADF. Et là, nous voyons principalement les FRDC, leurs partenaires de UPDF, mais nous savons qu'il y a aussi des contingents de la MONUSCO en appui aux FRDC et à d'autres services de sécurité. En tout cas, nous voulons à ce qu'il y ait une bonne coordination pour essayer d'endiguer. Cette guerre ne mérite pas de relâchement. Si on ne coordonne pas bien, alors on sera en train de chasser les ADF d'un coin vers un autre. Et ça, c'est le malheur de la population. La coordination des opérations, nous voudrons qu'elle soit réelle entre les militaires affectés en Ituri et ceux qui sont affectés au Nord Kivu pour que finalement ce sourire qui venait de naître puisse être récupéré et pour que nous puissions nous rassurer des travaux qui nous amènent une paix durable. Parce que finalement, on comprend que c'est aussi ça le souci qui n'a pas fait à ce que l'on y arrive.
On en vient maintenant à cette confusion qui règne à Lubumbashi. La maire adjointe de la ville est rappelée à Kinshasa par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur près d'une semaine après son retour de la capitale. Ce rappel intervient après que Joyce Tunda et son titulaire à titre intérimaire Patrick Kafwimbi se sont tous présentés ce mardi au bureau pour prendre le contrôle de la mairie comme chef. Jean Gandou nous raconte ce scénario.
La mairie de Lubumbashi apparaît comme un monstre à double tête. Elle a une autorité de fait et une autre de droit. La maire adjointe, qui, après avoir été réhabilitée par le Conseil d'État, s'est présentée ce mardi à son bureau et son chauffeur a garé les véhicules à l'endroit généralement réservé aux titulaires. Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, on voit un policier lui ouvrir la portière, elle descend et se laisse acclamer par ses partisans et arpente les marches jusqu'à atteindre son bureau. Là aussi, certains agents sortent et l'ovationnent. Juste après, c'est le maire intérimaire récemment nommé par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur qui se pointe et garde son véhicule à côté et les éléments de la police commis à cet office lui rendent les honneurs. Lui aussi est ovationné par ses sympathisants. Comme pour son adjointe, avant d'atteindre son bureau, il est accueilli par des cris de joie. Plus tard, c'est un télégramme du VPM de l'Intérieur qui tombe et qui demande à la maire adjointe de rejoindre Kinshasa en dehors 48 heures pour consultation. Cette situation divise l'opinion. Pour les uns, la RDC étant un pays de droit, la maire adjointe ayant été réhabilitée par le Conseil d'État doit en principe assumer l'intérim en attendant l'organisation de nouvelles élections locales. L'intérimaire devait, en toute logique, s'abstenir de faire fi de la décision de justice. Pour les autres, la maire adjointe devait attendre la remise et reprise avec son actuel titulaire avant de se comporter comme tel, encore que les deux sont membres de l'UDPS.
Des négociations cruciales ont débuté mardi à l'ONU à Genève avec pour objectif de conclure un traité juridiquement contraignant visant à réduire la pollution plastique. Des délégués de près de 180 pays y participent. Le monde veut et a effectivement besoin d'un traité conventionnel sur le plastique parce que la crise devient incontrôlable et les gens sont franchement indignés. Nous savons que le plastique est présent dans notre nature, dans nos océans et même dans notre corps. Ce qui est sûr, c'est que personne ne veut vivre avec la pollution plastique. C'est ce qu'a déclaré Inger Andersen, directrice exécutive du programme des Nations Unies pour l'environnement, l'agence des Nations Unies qui dirige les négociations. Plus de détails avec vous, Alain Rungmuchinj.
Selon le programme des Nations Unies pour l'environnement, sans la signature d'un accord international, la production des plastiques et leurs déchets devraient tripler d'ici 2060, causant des dommages importants notamment pour notre santé. La haute représentante suisse de l'environnement, Catherine Schneeberg, a fait écho à l'appel en faveur d'un traité juridiquement contraignant, insistant sur le fait que les déchets plastiques étouffent nos lacs, nuisent à la faune et menacent la santé humaine. Il s'agit plus que d'un simple problème environnemental, c'est un défi mondial qui exige une action urgente et collective. S'adressant aux journalistes en marge des négociations du traité, Mme Schneeberg a souligné qu'aucun plafonnement de la production par les pays producteurs n'avait été demandé. Parvenir à une compréhension commune de la nécessité de mesures tant du côté de la production que de la consommation peut contribuer à débloquer les négociations, a-t-elle souligné en sa qualité de directrice de l'Office fédéral de l'environnement. Les partisans d'un accord le comparent à l'accord de Paris sur le climat quant à son importance. Ils soulignent également la pression que les États pétroliers, dont le pétrole brut et le gaz naturel, fournissent les matières premières des plastiques exercerait contre un accord.
Alain Rungmouchinj, le ministère de l'économie nationale a diligenté des missions de surveillance des marchés auprès des supermarchés conformément aux prérogatives qui lui sont reconnues en matière de régulation des prix. Ces missions d'une durée de 15 jours ont pour objectif de s'assurer du respect de la réglementation relative à la fixation des prix, notamment dans des supermarchés et grandes surfaces de la ville de Kinshasa. C'est ce qu'indique le communiqué du ministère de l'économie publié hier mardi. D'autres précisions dans ce résumé de Blaise Makassi rendu par Ronéline Tibonera.
Le ministère de l'économie nationale rappelle que cette initiative s'inscrit dans le prolongement des actions engagées en matière de collecte des données et des suivis réguliers de l'évolution des prix. Elle vise à garantir que les pratiques tarifaires des enseignes de distribution soient conformes aux principes d'équité, de transparence et de protection du pouvoir d'achat des ménages. Le ministère de l'économie nationale invite les opérateurs économiques concernés à coopérer pleinement avec les équipes de contrôle et appelle la population à faire preuve de vigilance tout en évitant les généralisations hâtives à partir des cas isolés qui ne reflètent pas nécessairement l'état global du marché, indique le communiqué. Le gouvernement reste résolument engagé à assurer une régulation rigoureuse et équitable dans l'intérêt de tous les consommateurs, conclut le ministère de l'économie.
Par ailleurs, dans la province du Sankuru, clôture ce mercredi à Kikwit de la campagne des chirurgies et des traitements gratuits des malades. Cette action est menée par la clinique mobile de Lodja, composée de médecins spécialistes en chirurgie, en gynécologie obstétrique et en ophtalmologie. Cela avec le financement d'Entraide, une ONG suisse. D'après Dr Tony Elongue, ministre provincial de la Santé, pendant une semaine, plusieurs malades de Lodja, d'Idiofa et de Kikwit ont bénéficié des interventions chirurgicales gratuites ainsi que des soins. Docteur Tony Elongue, joint par Esther Ndalafina.
À Kikwit, par exemple, dans le cadre de la gynécologie obstétrique, on a eu à opérer autour de 20 cas de femmes qui avaient perdu leur santé de vie à cause des maladies gynécologiques invalidantes, comme le prolapsus, comme les fistules vésico-vaginal, comme des cancers. Et donc, on a essayé de les traiter, on a les a opérés, et ces femmes sont complètement dans la grande joie quand elles se sont vite transformées. La même chose dans le cadre de l'ophtalmo, il y a eu des gens qui ne pouvaient plus voir à cause des cataractes, et donc on a eu à opérer plus de 20 cas à corps de cataracte et puis on a eu à consulter beaucoup de gens. Dans le cadre de la dentisterie, la même chose. Et dans le cadre de la chirurgie, on a opéré beaucoup de cas de prostate, donc de hypertrophie de la prostate chez les hommes. Et donc, c'est vraiment une mission qui a pu permettre à ce que plusieurs personnes soient sauvées. On a redonné la vie à plusieurs personnes. Voilà.
Parlons de ce mal qui gangrène Kinshasa. La population kinoise développe de plus en plus l'habitude de se soulager en pleine rue. Les endroits concernés sont les coins isolés tout comme les rues fréquentées, les murs, des clôtures, les rivières, les arrêts des bus et d'autres endroits de la capitale de la RDC sont pris d'assaut par les pisseurs. Bref, les Kinois se donnent comme toilette publique n'importe quel endroit où ils se trouvent. Ce qui soulève ainsi des questions de pudeur, mais aussi des inquiétudes sur l'environnement et sur la santé de la population sur ces quantités d'urine déversées tous les jours dans la ville. Ce reportage porte la signature de Lukinzao.
Et Pekisami Kosuba Namur, entendez, défense d'uriner sur les murs. C'est l'inscription que l'on peut lire sur les murs des différentes clôtures dans la capitale congolaise. Il suffit de sillonner Kinshasa les jours comme les nuits pour trouver des personnes, des jeunes tout comme des vieux, en train d'uriner au vu et au su de tous sans pudeur. Comment expliquer ces phénomènes? Ces jeunes racontent.
Il m'arrive d'uriner en pleine rue, souvent quand je suis loin de la maison et qu'il n'y a pas de toilettes publiques ou des stations-service sur place. Des fois, on nous refuse l'accès aux
Pour le professeur Maximilien Zamoko, il s'agit aussi des manques de discipline dans les chefs de la population.
Les gens, quand ils consomment beaucoup d'eau, à l'endroit où il est, il doit faire un effort, attendre d'abord, il se soulage avant de se déplacer.
Docteur Kipasa, expert en santé publique, évoque le méfait de ses habitudes sur la santé.
À Kinshasa, il y a des épisodes de choléra et autres maladies diarrhéiques, souvent aggravées par les déficits de toilettes publiques. Cela entraîne la contamination des eaux après chaque pluie.
Parmi les risques sur l'environnement, l'environnementaliste Céline Sikulisiwa déclare que cette pratique favorise la prolifération des bactéries antibiorésistantes. À part les urines, ces lieux font aussi objet de défécations en plein air.
Actualité internationale.
Nous sommes en Guinée. L'opposition dénonce l'utilisation des moyens de l'État pour la campagne du oui au référendum sur le projet de la nouvelle constitution. Dans un décret lu le lundi 4 août, le président de la transition a convoqué le corps électoral pour le 21 septembre 2025, ce qui entérine la date du référendum plusieurs fois repoussée depuis la prise du pouvoir par Mamadi Doumbouya en 2021. Dans cette perspective, le gouvernement a entamé une campagne de vulgarisation du contenu de ces projets depuis quelques semaines partout en Guinée. Mais cet exercice de vulgarisation suscite la polémique.
L'invité.
Le ministère de l'Éducation nationale a publié les résultats de l'examen d'État édition 2025 moins d'une semaine après la tenue de ses épreuves nationales certificatives. Le président de l'Association nationale des parents d'élèves du Congo Anapeco, Steve Diatezoa, salue ces délais records qu'il considère comme une avancée technologique significative dans le système éducatif congolais. Selon lui, cette publication rapide permet aux lauréats de procéder sans tarder à leur inscription dans les universités et instituts supérieurs, tant au niveau national qu'à l'étranger. Steve Diatezoa s'entretient avec Blaise Ndongala Mayanda.
Bonjour Monsieur Steve Diatezoa.
Bonjour Radio Okapi.
Les résultats de l'examen d'État édition 2025 publié moins d'une semaine après l'organisation de cette épreuve certificative. Quelle analyse faites-vous de cette publication?
Pour nous, nous avons pris acte parce que nous savons que le premier jour du lancement de l'épreuve, la ministre d'État avait promis qu'après trois jours après la fin de l'épreuve, elle serait en mesure de publier les résultats. Et c'est ce que nous avons constaté, donc nous n'étions pas étonnés du tout.
Quel est selon vous le délai requis pour rendre public les résultats de l'examen d'une telle envergure?
Ce sont les services techniques, donc l'inspection générale seule, qui peut dire avec certitude quel est le délai qu'il leur faut pour traiter et publier les résultats.
Comment jugez-vous la correction à l'aide de l'intelligence artificielle qui fait débat à travers les pays?
Je suis en train de suivre les différents débats dans les réseaux sociaux qui sont totalement emballés. C'est normal parce que chaque innovation apporte un lot de questionnements. Mais pour moi, je trouve que la publication a été faite de façon hâtive. Moi, j'accepte les résultats tels qu'ils sont apparus parce que c'était déjà annoncé et elle a tenu parole. J'espère que ce service sont suffisamment outillés pour impacter cette innovation.
Quels sont les avantages, d'une publication faite de manière hâtive?
Les avantages de cette publication, c'est qu'il y a moins de stress. Le temps d'attente est réduit et les élèves, les parents sont fixés une fois pour toutes et on passe à autre chose, notamment pour obtenir l'inscription dans les établissements d'enseignement supérieur et universitaire, ou bien recommencer les démarches pour une réinscription là où l'enfant n'a pas réussi, ou peut-être changer d'école. Donc c'est ça l'avantage. Avant la rentrée scolaire, tout le monde est fixé.
En parlant des avantages, est-ce qu'il y a-t-il aussi des inconvénients?
Bon, les inconvénients sont dans la tête de ceux qui pensent qu'il ne fallait pas publier rapidement les résultats. Mais pour moi, je ne vois pas un désavantage qui porterait préjudice aux élèves et aux parents.
Quel est le message de l'ANAPECO, Association nationale des parents d'élèves du Congo, en cette période de la publication des résultats de l'examen d'État édition 2025?
Aux parents et aux élèves, je dis que nous sommes en train de marcher avec la révolution technologique et la RDC ne doit pas rester en marge. Maintenant, il y a un problème pour nous parents et les élèves, c'est de savoir comment entrer en possession des résultats qui sont publiés, parce qu'avant, ça s'est publié dans les réseaux de télécommunications. Maintenant, nous sommes un peu désemparés Nous ne savons pas comment accéder à l'information pour avoir les résultats. Message aux lauréats, nous continuons à marteler sur le fait qu'ils doivent montrer qu'ils sont devenus grands et non faire des folies qui amènent même à la mort, parce qu'ils sont sur des motos, dans des voitures, ils font des accélérations et ils font du n'importe quoi. Ils se croient maintenant autorisés à aller vers l'interdit.
Monsieur Steve Diatezoa, nous vous disons merci.
C'est à moi de vous remercier, monsieur le journaliste.
Notre invité était interrogé par Blaise Ndongala Mayanda. 12h20 dans ces studios de Radio Kapi en direct de Kinshasa. Ainsi prend fin ce journal mis en onde par Dieudonné Nyangasa Wanyangasa. La coordination assurée par Alain Hongmouchinj sous la supervision de Thérèse Kankou. Grâce à Mzati à la présentation. Merci.